parole du jour avec le Père Willem.
Ce n'est pas de faim, de soif corporelle, que par Jésus dans la béatitude que nous célébrerons en la fête de la Toussaint. Ni à la Samaritaine, ni dans le discours du pain de vie, ce n'est pas de faim, de soif corporelle que parle Jésus. Ce dont Jésus parle est la soif en esprit. La soif de justice, de paix, d'amour, d'amitié, de bonheur. L'espoir, la frustration, le manque, l'impatience, jusqu'à cet élan, sur un quai de gare, vers la silhouette du parent, de l'enfant, de l'ami, de l'aimé, qu'on attendait depuis tant de mois, ou seulement depuis quelques heures. Heureux ceux qui s'élancent sur un quai de gare. On n'observe pas assez, semble-t-il, que les personnages de l'Évangile sont presque tous des hommes et des femmes de désir. Oui, de désir. Ce qu'ils attendent est divers. La restauration d'Israël pour les uns, l'amour inconditionnel pour d'autres, le relèvement pour certains, la libération, la guérison, la vérité. Et dans ce désir, ils sont impatients. Maladroit, hâtif, tellement qu'il serait facile de se moquer d'eux. Or Jésus ne les rabrouille jamais, bien au contraire. Dans le désir anarchique ou impur, il discerne ce qui est bon, ce qui est droit. Et c'est ainsi qu'il accueille les pécheresses, ou qu'il embauche des disciples passablement indisciplinés, si j'ose dire. Travailler d'élan et de lâcheté, parfois chimérique, parfois violent, mais à ce point assoiffé et qu'ils le suivent au premier appel. Nous pouvons toujours être intrigués par ceux qui confient en confession qu'ils ont honte de leur désir ou qu'ils combattent ce désir ou que la sagesse consisterait à éteindre le désir. Ah, certes, non. Il faut répondre toujours qu'il ne s'agit pas de supprimer le désir. On en deviendrait fou. Il s'agit de l'affiner, ce désir, de le purifier, de le tourner vers plus haut, plus profond, plus grand, et alors de lui lâcher la bride. Car dans ce que nous désirons, que ce soit l'amour, l'amitié, la consolation, ou la vérité, ou le rire, ou la beauté, il y a toujours, malgré les scories, un éclat de la splendeur de Dieu. Même dans le désir impur, notre cœur appelle à la pureté. Car notre cœur sait, lui, pourquoi il est fait. Et c'est pour que nous nous mettions en route vers lui que Dieu nous a créés désirants. Heureux ceux qui attendent, ceux qui espèrent, ceux qui luttent, ceux qui guettent, ce vide dans leur cœur, c'est Dieu qui l'a créé, et c'est Dieu seul qui le comblera. Oui, soyons des femmes et des hommes de désir. L'homme d'aujourd'hui, l'humanité que nous sommes, doit renoncer à idolâtrer l'argent et doit replacer au centre la personne humaine avec son désir, sa dignité. Mettre au centre le futur des générations qui peupleront la terre après nous. Sinon, nos descendants seront contraints de vivre sur une accumulation de déchets, de saletés. Il nous faut cultiver et protéger le don qui nous a été fait et non l'exploiter de façon irresponsable. Il nous faut prendre soin de ceux qui n'ont même pas le minimum nécessaire et commencer à entreprendre les formes structurelles qui favorisent un monde plus juste. Renoncer à l'égoïsme et à l'avidité pour que tous vivent un peu mieux, un peu mieux. Un pays comme la France, qui accueille nombre de chrétiens, pourrait devenir un lieu d'accueil encore plus conscient de ses aptitudes et de ses capacités, les communautés d'Orient pourraient trouver sur notre sol un espace pour déployer leur immense richesse qui vient du fond des âges. Il est en train de se passer sous nos yeux, oui, il faut le constater, une tragédie humaine, humanitaire, qui nous interpelle. Pour nous chrétiens, les paroles de Jésus qui nous invitait à le voir dans les pauvres, les étrangers appelant à l'aide, restent un commandement. Aujourd'hui, maintenant, il nous a enseigné que chaque geste de solidarité envers eux est un geste envers lui. Demandons-nous pourquoi tant de gens fuient, pourquoi tant de guerres et tant de violences. Pourquoi ? N'oublions pas qui fomente la haine et la violence également, qui spécule sur les guerres et sur les trafiquants d'armes. Nous devons chercher à encourager par le dialogue la solution des conflits et la construction de la paix. Comme le dit le pape François, nous cherchons inlassablement les voies pacifiques et négociées pour résoudre les crises et les conflits. Le Saint-Siège n'a pas d'intérêt propre à défendre sur la scène internationale, mais il agit envers tous les canaux possibles, à travers toutes ses possibilités, pour encourager les rencontres, les dialogues, les processus de paix, le respect des droits de l'homme. Par ma présence, il y a encore François, par ma présence dans des pays comme l'Albanie, la Bosnie et Herzégovine, j'ai essayé de soutenir des exemples de coexistence et de collaboration entre des hommes et des femmes appartenant à différentes religions afin qu'ils surmontent les blessures toujours ouvertes qu'ont provoquées les récentes tragédies. Je ne fais pas de projet. Je ne m'occupe pas de stratégie ni de politique internationale. Je suis conscient que dans de multiples circonstances, la voix de l'Église est une voix clamatis in deserto, la voix de celui qui crie dans le désert. Néanmoins, je crois que c'est justement la foi dans l'Évangile qui exige que nous soyons des bâtisseurs de ponts et non des murs. Il ne faut pas exagérer le rôle du pape et du Saint-Siège. Ce qui vient d'arriver entre les États-Unis et Cuba en est un exemple. Nous avons seulement cherché à favoriser la volonté de dialogue des responsables des deux pays et surtout, nous avons prié pour eux et peut-être avec eux.